Bonsoir, nous sommes donc, nous continuons notre pénétrante étude des Agadot que Père Écrélève. Ah, c'est une bonne idée. Ouais. Merci. Nous sommes donc à la page Tzadik Amoud Bet que vous avez devant les yeux. Et alors, reprenons à partir du bas. Il faut compter 2, 4, 6, 8, 10, 11 lignes. 11 lignes à partir du bas. Oui, le bas, c'est ce qui est en bas. Ah, si déjà on en est là, je tiens à vous rappeler que demain soir, il y a au Machon Meir, entre 20h15 et 22h, c'est-à-dire donc le soir, il y a une soirée d'études sur Hanouka avec deux intervenants. Le premier, c'est le professeur Beno Gross, qui parlera de la chute des empires, Hanouka et la chute des empires. Et puis après, il sera suivi d'une intervention du Rav Uri Cherki sur la Grèce et Israël, l'affrontement des cultures. Tout cela se passera au Machon Meir. Il s'agit de demain soir. Faites faire parvenir l'information à vos amis et connaissances. Voilà. Donc nous étions... Oui, c'est vrai, absolument vrai. Bon, petite remarque, la semaine prochaine, il n'y aura pas cours, c'est Hanouka, et il y a un décret des Grecs qui est interdit d'étudier. Et donc, pour être fidèle au Takanot, eh ben, il faut ne pas... Donc nous sommes... oui, le stylo, il n'est pas revenu, hein, Marc. Le stylo est à moi. Non, c'est pas un soupçon, hein, c'est pas... donc, c'est à la 11e ligne à partir du bas. Tania Amar Rabbi Eliezer Be Rabbi Yossé. Rabbi Eliezer Be Rabbi Yossé enseignait. Bedavarze Ziyafti Sifre Minim. C'est ainsi que j'ai confondu les livres des Minim. En fait, il y a ici une erreur dans les manuscrits de la Gemara. Il n'est pas écrit Minim, mais Koutim. C'est-à-dire. Donc, ce dont il est question cette fois-ci, ce n'est pas les minimes comme quelques lignes plus haut, il s'agit ici des koutim. C'est quoi les koutim? C'est quoi les koutim? C'est les samaritains, voilà, les samaritains. Alors, c'est quoi les samaritains? Je tiens à rappeler, on a commencé cette étude la semaine dernière, mais il est bon de reprendre. Les samaritains, c'était une peuplade amenée par les Assyriens dans la région d'Eretz Israël qui s'appelle la Samarie. Ils se sont établis alors que les tribus d'Éphraïm et Ménaché étaient exilées, et ils ont adopté, sous bien des rapports, la Torah. C'est-à-dire que la religion samaritaine est plus ou moins identique à la religion juive, avec cette différence qu'elle est adoptée par un peuple qui n'est pas le peuple d'Israël. Et ce peuple ne voit pas Jérusalem comme sa capitale, comme le lieu du temple. Les Samaritains considèrent que le temple doit être construit sur le mont Gerizim, à côté de la ville de Shrem. Jusqu'à ce jour, il reste encore des Samaritains sur terre. Il y en a très peu, il y en a environ 2000, mais ça existe quand même. Et les Samaritains en question font chaque année le sacrifice de Pessah sur le mont Gerizim, à côté de Shrem, et c'est retransmis par la télévision israélienne. Et, bon, mais à l'époque de Rabbi Eliezer et Rabbi Yossé, les Samaritains en question étaient très importants. Ils étaient au moins 1 million de personnes. Depuis, ça a beaucoup diminué, mais enfin, il y avait quand même à peu près 1 million de Samaritains. Et le problème, c'est, enfin, un des problèmes qu'il y a avec eux, c'est que le texte de la Torah qu'ils ont est un petit peu différent du nôtre. Alors, nous voyons plusieurs débats chez les Chachamim, en général menés par Rabbi Eliezer et Rabbi Yossé, pour prouver la supériorité de notre version sur la leur. Voilà. Oui ?
Qu'est-ce qui les a poussés à adopter la religion juive ?
Ce qui les a poussés à adopter la religion juive, c'est raconté dans le livre des rois, dans le livre de Melachim. Ils sont arrivés ici, ils se sont fait manger par des lions. Enfin, des lions les dévoraient de temps en temps. Alors, ils se sont dit qu'ils étaient dévorés par les lions parce qu'ils ne connaissaient pas la loi du dieu local. Alors ils se sont intéressés, ils ont fait venir un prêtre parmi les Hébreux exilés par les Assyriens qui leur a enseigné la Torah à sa manière, à la manière donc des tribus du Nord, pas des tribus du Sud. Et depuis, ils ont adopté ça et les lions ont cessé. Voilà. C'est pour ça que la Guémara les appelle Géré Arayot. Ils se sont convertis à cause des lions. Ce sont des convertis par lions. Je n'ai pas encore trouvé de jeu de mots qui pourrait bien expliquer ça, mais enfin, ça viendra. D'accord ? Alors, la Guémara dit que pendant longtemps, ils ont été considérés comme juifs, pratiquement à part entière, jusqu'au jour où on a découvert une tête de pigeon à laquelle ils rendaient un culte sur le mont Grizim. C'est-à-dire, en plus des dieux anciens, ils ont adopté également la religion d'Israël. Enfin, toujours est-il que pour des tas de raisons, aujourd'hui, les Samaritains sont considérés comme non-juifs. Pour vous dire la vérité, eux affirment que ce sont eux les vrais juifs et que nous sommes des faussaires. Voilà, c'est ça l'opinion des Samaritains. Alors, il y a des tas de recherches qui sont faites à l'université sur le culte samaritain, leur tradition et tout le bazar. Ils ont un très ancien Sefer Torah qu'ils exposent à Shrem, je crois, et qu'ils prétendent être écrit de la main de Yehoshua bin Nun lui-même. Voilà. En tout cas, il est écrit d'ailleurs dans les lettres hébraïques anciennes, pas dans les lettres actuelles, dans les anciennes lettres hébraïques. Et puis, ils nous ont fait beaucoup d'histoires à l'époque du Deuxième Temple. Voilà. L'histoire du bon samaritain dans les évangiles, ben c'est eux. Voilà. Alors, on les appelle Koutim. Pourquoi est-ce qu'on les appelle Koutim ? Parce que la ville d'origine des samaritains, des Chomronim, c'était la ville de Kouta, qui se trouve au Kurdistan actuel. Alors, la ville de Kouta, donc on les appelle les Koutim. Et donc là, il y a déjà un premier jeu de mots, il faudrait dire que ça nous en coûta beaucoup. Bon. Et donc, il y a ici le débat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yossé et eux. Tania Amar, Rabbi Eliezer et Rabbi Yossé, Bedavarze, Ziyafti Sifri Koutim. C'est comme ça que j'ai démontré la fausseté des livres des Koutim. Shayu Omrim, car eux disent, En Tehiya Tametim Mina Torah. La résurrection des morts n'est pas mentionnée dans la Torah. Amar Tilahem, je leur ai dit. Ziyaftem Toratrem, Velo Elitem Bietrem Klum. Vous avez falsifié votre Torah, mais vous n'avez abouti à rien. Sheatem Omrim, parce que vous dites, En Tehiya Tametim Mina Torah. Il n'y a pas de résurrection des morts selon la Torah. Hare Omer, or n'est-il pas dit, Hikaret Tikaret Anefe Shai, Havona Ba. Elle sera retranchée, cette âme-là. Sa faute est en elle. Alors, ça veut dire quoi ? Elle est retranchée et sa faute est en elle. Elle est retranchée d'où ? De ce monde. Une fois que l'âme est retranchée de ce monde, à quoi ça sert de dire que sa faute est en elle ? Ça veut donc dire qu'elle est poursuivie par sa faute, même après sa mort. Ce qui veut donc dire qu'il y a une vie après la mort. N'est-ce pas ? C'est ce qu'il leur a dit. Hikaret, tikaret, barola mazé. Elle sera retranchée dans ce monde. Avona ba lehemat. Alors, quand est-ce que sa faute est en elle? Lav la olam haba. Cela ne veut-il pas dire que c'est dans le monde à venir? Conclusion, il y a un monde après notre monde. C'est ce que dit Rabbi Eliezer et Rabbi Yossé. Il se base donc sur le mot avona ba. C'est ça? Est-ce que vous croyez que cette interprétation est satisfaisante ? Non. Pourquoi ? Ah, ça c'est vrai. Il y a déjà un premier point. Il semble donc que chez les Chomronim, on ne faisait pas la différence entre Tehiyat Amitim et Olam Haba. Il niait purement et simplement qu'il y a une vie après la mort. Donc, à plus forte raison, la résurrection des morts. D'accord ? Donc, ce dont se préoccupent Rabbi Eliezer et Rabbi Yossé, c'est d'abord de détruire ce fondement-là chez eux. Après, quelle est la forme de la vie après la mort ? Si c'est Tehiyat Amitim, un corps sans âme, une âme sans corps, etc. Ça, c'est déjà moins important. J'ai une idée. Si on fermait la porte, c'est une lueur de génie comme ça qui vient. Ah. Ouais. Très bien. C'est ça. C'est ça, très bien. Oui, mais ça, c'est pour les ophtalmos, ça. Bon. Donc ça, ce produit-là, ce n'est pas le problème. Mais il y a quand même quelque chose qui me chiffonne un peu. Si on comprend le verset comme Rabbi Eliezer et Rabbi Yossi, on a l'impression qu'il y a un acharnement de Dieu contre le pécheur. Ikaret, tikaret, anefeshaï, cette âme sera retranchée. Avonaba, sa faute la poursuivra, même dans le monde à venir. L'œil était dans la tombe et regardait Cain. Ça ? Il y a quelque chose d'assez, disons, méchant dans cette manière de juger l'homme. Où est la charité ? Bon, enfin, nous allons voir que ce n'est pas si simple. Là, je dis ça un peu à l'avance, j'anticipe un peu pour qu'on comprenne après la suite de la Guémara. Amarle Rav Papa le Abaye. Rav Papa a demandé à Abaye. Alors, remarquez bien, Rav Papa et Abaye, c'est la cinquième et la quatrième génération des Amoraïm. C'est ça ? Et Rabbi Eliezer et Rabbi Yossé, c'est quelque chose comme trois générations, non, c'est deux générations avant la fin de l'époque des Tanaïm. C'est-à-dire, il y a ici sept générations de distance dans le débat. D'accord ? Rabbi Eliezer et Rabbi Yossé, et à son entretien avec les Samaritains, sept générations avant l'entretien entre Rav Papa et Abaye. Alors Rav Papa et Abaye discutent de ce débat. Ils disent Veleima lehu travaillu miikaret ikaret. Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de prouver qu'il y a une vie après la mort en se basant sur le mot Avona ba, sa faute est en elle. On aurait très bien pu le déduire de la première expression, ikaret tikaret. On dit deux fois il sera retranché. C'est-à-dire ikaret tikaret. Il sera retranché, il sera retranché. Comment est-ce qu'on peut être retranché deux fois? C'est comme le juge un peu bègue qui condamne le condamné à mort. D'accord? Alors il le condamne deux fois à mort. Ça tient pas debout, n'est-ce pas? C'est dans la rubrique à braque, un texte comme ça. Vous connaissez pas? Vous n'avez pas lu, hein? Bon, pas de lettres. En tout cas, donc, Icaret, Ticaret. Icaret, ça voudrait dire le Olam Hazeh. Et Ticaret, le Olam Haba. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit ça? C'est ce que demande Rav Papa à Abaye. Amrele, non. Inhu, avu, Amrele, il lui aurait répondu, Dibra Torah, Kilshon, Bene Adam, la Torah parle dans le langage des hommes. C'est-à-dire, on ne peut pas prouver à partir de hikaret tikaret, parce qu'on pourrait objecter que hikaret tikaret, c'est une forme, c'est une manière de parler. D'accord ? C'est pour ça que Rabbi Eliezer et Rabbi Yossé a besoin de avonaba. Vous me suivez ou pas ? Je sais que c'est un peu compliqué, mais c'est clair, c'est ça ? Bon. Vous avez tout compris ? Génial. Il y a une interro là-dessus après le cours. Bon. Ketanae. Alors, la Guémara va ici introduire un débat similaire à ce débat-là chez les Tanaïm. Alors, les Tanaïm en question, c'est des Tanaïm qui vivaient deux générations encore avant Rabbi Eliezer et Rabbi Yossé, donc ça fait déjà neuf générations de distance. Hikaret, tikaret, et là on amène une braïta, un texte ancien qui dit que hikaret, tikaret doit être compris comme ça. Hikaret, ba'olam hazé, tikaret, la'olam haba, divré Rabbi Akiva. Donc, Rabbi Akiva enseignait effectivement, que chacun des deux, à chaque fois que la racine karet revient dans le texte, c'est un autre retranchement. Donc il disait, ikaret, c'est dans le olam hazé. Tikaret, c'est dans le olam haba. C'est ce que disait Rabbi Akiva. N'est-ce pas ? Contrairement à ce que Rabbi Eliezer et Rabbi Yossi a dit au Koutim. Amarlo Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. Pourquoi ? Il lui dit, Vahalo kvarnehemar, n'est-il pas dit un verset plus haut? Et Hachem ou Megadef vinichreta, il blasphème l'Éternel, il sera retranché. Donc si à chaque fois que le mot karet apparaît dans le texte, il faut supposer un autre monde, Vechish losha olamim yesh, y aurait-il trois mondes? Hein? Voilà, c'est-à-dire que Rabbi Ishmael n'est pas d'accord avec ce système dans lequel à chaque fois qu'apparaît la racine karet, on dit c'est un autre monde. Parce que ça voudrait donc dire, si on prend le texte là-bas où le mot karet apparaît trois fois, qu'il y aurait trois mondes. Or, nous savons qu'il y en a deux. Et là, alors comment est-ce qu'il faut lire, d'après Rabbi Ishmael, « Venir reta baolamazé », quand on dit « il sera retranché », cela veut dire « dans ce monde », « hikaret », ça veut dire « laolamaba », « hikaret tikaret », et le fait que l'expression revienne une deuxième fois, « dibra Torah, kilshon bene adam », c'est une manière qu'ont les hommes de parler. D'accord ?« Dibra Torah, kilshon bene adam ». Voilà, c'est ça la marque locale entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose dans l'interprétation aussi bien de Rabbi Akiva que de Rabbi Ishmael? Qu'est-ce qu'il manque là-bas? Je vais faire une petite allusion. Vous vous rappelez le verset? Il disait « Hikaret, tikaret, anefeshahi, avona ba ». Ah! Donc, ni Rabbi Akiva, ni Rabbi Ishmael n'ont jugé nécessaire d'expliquer ce que veut dire le mot Avonaba. Voyez-vous le problème? N'est-ce pas? Peut-être que nous aurons une solution grâce au retardataire, on ne sait pas. Hein? Non, c'est pas méchant. Donc, vous avez compris le problème? Je ne suis pas sûr que c'est clair. Vous avez compris la question?
Oui.
Vous avez compris? Tu m'as compris la question? Je sais pas. Bon. Alors, c'est ce que pose la question de la Gemara. Bein Rabbi Ishmael ou Ben Rabbi Akiva. Que l'on suive l'interprétation de Rabbi Ishmael ou l'interprétation de Rabbi Akiva. Avona ba, mai avdebe. Qu'est-ce qu'ils en font de Avona ba? La faute est en elle. L'Erdetania, la réponse est, c'est que ça vient nous enseigner, Yachol afilu asa teshuva, est-ce que ce retranchement serait valable même quand on a fait teshuva? Talmud Lomar, Avonaba, c'est pour ça que le texte nous dit, tant que la faute est en elle. Lo amarti elabizman, chez Avonaba, je ne l'ai dit que pour tant que la faute reste en elle. C'est-à-dire que le terme Avonaba ne signifie pas qu'il y a un acharnement de Dieu contre la victime. Au contraire, cela veut dire qu'il y a une espérance que celui qui s'est rendu coupable de karet, de retranchement, fera teshuva, et donc sa faute ne sera plus en lui. Bon, c'est donc le mot Avonaba est optimiste, d'après Rabbi Akiva et d'après Rabbi Ishmael.
Mais
ben non, Ikaret, Tikaret, Anefeshaï. Cette âme-là sera retranchée aussi bien dans le Olam Hazeh que dans le Olam Haba. Pourquoi? Parce que Avonaba, parce que sa faute est en elle.
Mais si jamais il fait Teshuvah.
Ça veut dire que s'il fait Teshuvah, donc sa faute n'est plus en elle, donc il ne sera pas retranché, ni du Olam Hazeh, ni du Olam Haba.
Mais s'il ne fait pas Teshuvah, il retranche du Olam Haba.
Bah oui.
Donc la question reste, pourquoi Olam Haba, tu me suis.
Ah oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que dans ce Olam Haba, pourquoi dans l'Olam Haba, celui-là, il sera retranché?
Et ça veut dire quoi être retranché pour l'Olam Haba?
Ben justement, c'est pas très clair. Il y a une interprétation du Rambam et une interprétation des Kabbalistes. C'est pas la même.
Du coup,
Une seconde. On va y arriver. On va y arriver à tout. Un peu de patience. Il y a quelque chose qui nous chiffonne dans l'interprétation de Rabbi Eliezer et Rabbi Yossé. Est-ce qu'il y a ici un tableau? Non, il n'y a pas de tableau. Eh ben non, ben, oui, mais enfin, il faudrait. Je vais expliquer tout ça au tableau, ça sera plus clair. Qu'est-ce qu'il y a ici? Quoi écrire au tableau? Ben non. Ben tant pis. Ah, peut-être que là, il y a. Oh, il y en a. Est-ce qu'il y a de quoi effacer? Quelqu'un a une kippa en trop? Ah, une seconde. Génial. C'est très bien, ça y est, c'est arrangé. Hazak ou Baouf?
Si on les fasse bien, quoi.
Amalgame. Je reprends le texte. Le texte de la Torah dit comme cela. Venir Reta. Bécaret. Non, non, c'est pas un bélier. Bah, il y aura bien de la... Ah non,
Montre.
C'est fait pour.
Non, il y a ça. Non, c'est pas le même, ça. Pas le même genre. Ah oui, c'est vrai. Icaret. Icaret. Avona. Ba. Alors, selon Rabbi Ishmael, le mot venir freta signifie dans le Olam Hazé. Icaret veut dire dans le Olam Abba. Et Icaret ne veut rien dire. Parce que Leshon Bene Adam. D'accord? Leshon Bene Adam. C'est ça. D'après Rabbi Akiva, le mot venir freta n'a rien à voir. Ça, c'est d'après donc Rabbi Ishmael. D'après Rabbi Akiva, le mot Venichreta parle d'un autre péché, pas du même. C'est-à-dire qu'il y a tout un débat dans le texte. C'est un texte dans Bamidbar, chapitre Tetvav. Est-ce que les deux parties du verset parlent de la même faute ou pas? D'après Rabbi Ishmael, ça parle de la même faute, qui est le blasphémateur. Et d'après Rabbi Akiva, la première partie parle du blasphémateur et la deuxième de celui qui est idolâtre, du Orved Avodah Zara. Donc, d'après Rabbi Akiva, Venichreta n'a rien à voir avec notre histoire. Et Icaret veut dire Olam Hazé et Icaret veut dire le Olam Abba. Que veut dire Avon Abba? Avon Abba, aussi pour l'un comme pour l'autre, ça veut dire la Teshuva, que la Teshuva est possible. Maintenant, si on prend l'interprétation de Rabbi Eliezer Berabi aussi, en fait, le mot Icaret Icaret veut dire le Olam Hazé. Et Avon Abba veut dire le Olam Abba. Maintenant.
Et pour Rabbi Ishmael, c'est quoi Avon Abba?
Ah, Teshuva. Aussi bien pour Rabbi Akiva que pour Rabbi Ishmael, Avon Abba veut dire que s'il a fait Teshuva, il n'y a pas de karet. D'accord? Maintenant, remarquez une chose très importante. Quand Rabbi Lazar et Rabbi Yossé parlent avec les Samaritains, ils n'envisagent pas la Teshuva. Ça veut donc dire que pour les Koutim en question, les Chomronim en question, la Teshuva est impossible. C'est une fois qu'on a péché, eh bien, on est poursuivi à tout jamais. Et même s'il y a un Olam Abba, on est poursuivi dans le Olam Abba. C'est-à-dire, la Teshuva ne fait pas partie du registre naturel de la pensée d'un Samaritain. D'accord? Donc, ce n'est pas juif. C'est ça que veut dire Rabbi Eliezer Berabi aussi. Pour leur prouver que le Olam Abba est possible, je dois leur donner une interprétation qui ne comporte pas la possibilité de la Teshuva. Maintenant, remarquons aussi autre chose. Il n'y a pas de logique dans la poursuite, dans l'acharnement de Dieu sur l'homme dans l'Olam Abba. Parce qu'il n'y a rien à voir entre l'Olam Hazé et l'Olam Abba. Tandis que pour Rabbi Akiva, comme pour Rabbi Ishmael, l'Olam Abba est la suite logique du Olam Hazé. C'est pour ça que c'est la même racine qui est employée, le mot karet. C'est-à-dire, c'est parce qu'il a été retranché dans l'Olam Hazé qu'il est retranché dans l'Olam Abba. Il ne fait que continuer ce qu'il a commencé. Il y a une continuité entre les deux mondes. L'Olam Hazé et l'Olam Abba, c'est le même monde. Et donc, si on s'est retranché dans l'Olam Hazé, eh bien, on est retranché dans l'Olam Abba. Icaret, Icaret. Ou bien, Vedichreta, Icaret. Tandis que, pour le Samaritain, s'il y a un autre monde, eh bien, cet autre monde n'est pas le prolongement d'une autre. Il est une autre réalité. Donc, il peut être désigné par une autre racine grammaticale que celle qui désigne l'Olam Hazé. L'Olam Hazé peut être désigné par la racine grammaticale Karet, et l'Olam Abba par Avon Abba. Si vous voulez, c'est un dieu vengeur, le dieu de la mythologie, qui veut se venger de celui qui a transgressé sa parole.
Mais je n'arrive pas à comprendre. Chez les Samaritains, quelqu'un peut avoir. Comment est-ce qu'on peut accéder au Olam Abba? Tout le monde pêche. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible?
Non, ça dépend quel péché.
Quoi?
Ça dépend quel péché. Pas tout péché entraîne le Karet. Hein. Mais si un péché a entraîné le Karet, c'est indélébile. C'est comme par exemple le voilà, ce machin là. C'est un bélier, ça part. C'est un carré de samaritain. Voilà. D'accord? Alors c'est pour ça que je voulais expliquer que il y a deux manières de concevoir le Olam Abba. Il y a une manière juive de concevoir et une manière goy de concevoir. La manière juive suppose qu'il y a une solution de continuité entre les deux mondes. Vous voyez, le Olam Haba, c'est le Olam Hazé tel qu'il devient. Tandis que pour le samaritain, c'est un autre monde. D'ailleurs, vous savez comment est-ce qu'on dit « Olam Haba » en français ?
Le monde à venir.
Non, on dit « l'au-delà ». Les Français disent « l'au-delà ». L'au-delà, ça veut dire que ce n'est pas le même monde. Tandis que si on dit « Olam Haba », c'est le monde à venir, justement. C'est le même monde tel qu'il devient. C'est très différent. D'accord ? Bon. C'est-à-dire, c'est une différence, la différence qu'il y a entre une lecture, disons, mythologique de la Torah et une lecture vivante de la Torah. Donc ça prouve que Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi, quand il a dit ce qu'il a dit, il l'a dit à l'usage des Samaritains, pas à notre usage intérieur. Oui ?
Dans les deux cas, la totale est la même, puisque s'il ne fait pas chouva.
Non, mais attention.
Il reste ticaret, il reste comme ça.
Oui, attention, oui, mais il y a une logique à cela. C'est-à-dire. C'est, on se fait à soi-même son malheur. C'est-à-dire, on le fait soi-même. Tandis que, pour le samaritain, c'est quelque chose de vengeur, c'est quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire, j'ai fâché la divinité, donc elle se venge. Et donc, il n'y a pas de possibilité de tikkun envisageable. Maintenant, même pour le juif, s'il n'y a pas eu le teshuva, et qu'il y a eu le karet, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité de retour. Par exemple, il y a un verset dans Iov qui dit « Yesh tikva la'etz ki yikaret ». L'arbre a toujours de l'espoir, même s'il est coupé. Parce qu'il peut toujours redonner des pousses. Alors là, ça entre dans le problème du karet. Qu'est-ce qu'il signifie, justement ? Est-ce qu'il faut comprendre le karet à la manière du Rambam ou à la manière des kabbalistes ? D'après le Rambam, le karet, c'est que l'homme est totalement retranché. Il ne lui reste plus rien de lui. D'après les kabbalistes, ce n'est pas exactement comme ça. Il ne reste plus rien de lui, donc il doit repousser, comme un arbre. Donc ça implique le Gilgoul. D'accord ? Je vais vous raconter une belle histoire. Je vous ai raconté l'histoire. Oui, bah si, je l'ai raconté, cette histoire du Chochet dans une communauté de Pologne. Je ne l'ai pas raconté ? Ah non, c'est une histoire vraie. Hein. Je vais la raconter. Vous voulez une histoire ? Une belle histoire. Il y avait en Pologne, dans une communauté dont je ne me rappelle plus du nom, est arrivé dans la communauté, en Pologne, oui. Qu'est-ce qu'il a dit ? Non, pas Djerba. C'était en Pologne. Oui. La Pologne, c'est loin de Djerba. C'est parce que l'approche de Hanouka lui fait des nausées d'huile. Bon. En Pologne, est arrivé donc dans une communauté un shochet, un abatteur, avec sa famille. Et il a fait un contrat avec la communauté, il est payé tant par mois, etc. Et très peu de temps après sa nomination, le shochet en question a fait effraction dans une église, il a brisé les idoles, brisé les crucifixes. Et il s'est fait attraper par les goyim, qui l'ont condamné à mort et qui l'ont brûlé. Bon. Quelques temps après cet incident, la veuve vient voir les responsables de la communauté et dit, dans le contrat, il y avait écrit qu'en cas de mort de mon mari, je continue à recevoir son salaire. Alors elle a demandé son salaire. Le rabbin a dit, non, pas question, ça c'est un cas de suicide, le suicide n'était pas inclus dans le contrat. Mais malgré tout, il s'est dit, comme c'est un cas assez particulier, il a demandé l'avis d'un rave plus grand que lui dans une autre ville. Le rave plus grand que lui de l'autre ville a écrit une lettre dans laquelle il dit « Je confirme le psak, la décision du rabbin local. Effectivement, le cas du suicide n'était pas inclus dans le contrat. Mais cependant, étant donné qu'il y a un problème humanitaire, je propose qu'il y ait une pshara. » Un compromis. La communauté a de toute façon besoin d'un shochet, et donc la communauté va prendre un shochet célibataire, et qui donc n'a pas autant de besoin qu'un chargé de famille, et vous lui donnerez les deux tiers du salaire, et vous donnerez à la veuve les deux tiers du salaire, ce qui fait que chacun renonce à un tiers, et tout le monde est content. La communauté va perdre un tiers, le shochet nouveau va recevoir un tiers de moins, et la veuve recevra un tiers de moins, et tout le monde sera content. Alors c'est finalement ce qui a été adopté. La nuit d'après, le Shochet en question est apparu en rêve au rabbin qui avait fait cette proposition. Et il lui a dit, sache que je suis Ménaché, roi de Juda. Et que c'est la 300e fois dans mon existence que je suis brûlé, Al-Kiddush Hashem, pour sanctifier le nom de Dieu. Et je fais ça pour expier le fait que j'ai entraîné tout Israël à l'idolâtrie. Hein? Belle histoire, n'est-ce pas? Bon. Oui, pas caché. Mais alors, ça veut donc dire quoi? C'est-à-dire, si cette histoire est vraie, et je suis simplement venu te remercier de ce que tu as fait pour les enfants et ma femme et tout le reste, enfin, sache que c'est ça la vraie histoire. Et comment? Oui, pendant l'histoire, ça lui est arrivé assez souvent, disons, d'accord? Mais en tout cas, d'ailleurs, je me demande comment est-ce qu'il a pu faire ça 300 fois, parce qu'il n'y a pas 300 générations entre nous et Ménaché. N'est-ce pas? Il n'y a pas 300 générations. À moins de supposer. Hein?
Le nombre de Gilgoulim n'est pas limité à 4.
Ça dépend quel genre de Gilgoulim. Enfin bref, ça veut dire que le karet, en tout cas, il est réparable. D'accord? Hein? Oui, Ménaché n'a pas de Halek Arolamaba. Oui, mais attention, la Guémara après elle dit que c'est des blagues ça qu'il n'a pas par Arolamaba. On l'a dit pour des raisons pédagogiques. Mais par la suite, la Guémara elle-même dit Dorshe Rishumot Amru, Kulam Yeshelem Chalav Olamaba. Ceux qui lisent entre les lignes savent que tous sont par Olamaba et on amène la preuve. D'accord ? D'un verset de Tehillim. C'est-à-dire que pédagogiquement, on ne peut pas dire à un bon juif Ménaché à part Olamaba. C'est destructeur, une chose pareille. Mais une fois qu'il a bien compris que Ménaché n'a pas part Olamaba, on peut lui dire tu sais, il rentre par la porte de derrière, la porte de service. D'accord. Donc, c'est ça le karet, n'est-ce pas? Maintenant, il y a un petit problème. Qu'est-ce que veut dire Rabbi Ishmael quand il réfute l'opinion de Rabbi Akiva et qu'il dit « Vechi shlosha olamim yesh » Y aurait-il trois mondes? Alors, je ne vais pas vous dire tout de suite la réponse. Quand on arrivera à la prochaine page, on aura une réponse. D'accord? Pour l'instant, on continue. Simplement, je laisse en mémoire la question. Bon, continuons. Alors, vous rappelez que le problème de savoir d'où est-ce qu'on tire la résurrection des morts trouve sa réponse de manière différente selon l'interlocuteur. Si l'interlocuteur est un hébreu, c'est une chose. Si c'est un juif, c'est autre chose. Si c'est un chrétien, c'est encore autre chose. Si c'est un romain, encore une autre. Et si c'est un samaritain, encore une autre personne. C'est encore une autre réponse. Quel autre interlocuteur peut-on avoir à part tous ces gens-là? On avait dit les martiens. Bon, mais ça, c'est déjà évacué. Eh bien, la réponse, c'est les hommes politiques. Les hommes politiques constituent à eux-mêmes une classe à part. Et là, nous avons donc des entretiens entre les rabbins et des rois à ce propos. Alors, je lis ici le texte. C'est quatre lignes avant la fin, à la fin de la quatrième ligne. Vous y êtes? Sha'ala, vous y êtes? Sha'ala Cléopâtre. La reine Cléopâtre a demandé. Ah, quel nez! Sha'ala Cléopâtre Malketa. La reine Cléopâtre a demandé. Et Rabbi Meir à Rabbi Meir. Amra. Elle lui a dit. Yadda'na. Je sais que revivront les morts. C'est-à-dire que Cléopâtre sait qu'il y a une vie après la mort. Comment est-ce qu'elle le sait? Elle est égyptienne. Chez les Égyptiens, la vie d'outre-tombe, c'est une banalité. À tel point même que d'après certains érudits de l'université, l'idée même du monde à venir aurait été introduite dans le judaïsme par les Égyptiens. Enfin, peu importe, mais enfin, je veux dire, c'est une banalité telle chez les Égyptiens qu'il y a un monde après la mort, qu'elle dit ça, je le sais. D'accord? Dirtiv, car il est dit, elle amène un verset de Tehilim. Veyatitsu me'ir ke'esev ha'aretz. Ils surgiront de la ville comme l'herbe des champs. Donc l'herbe des champs, eh bien, c'est quelque chose qui ressuscite. C'est-à-dire que chaque année, l'herbe disparaît et puis après elle ressuscite au printemps. Ça, toutes les feuilles mortes sont toutes ressuscitées lors du printemps. Et là, alors ce qui l'inquiète, ce n'est pas la résurrection des morts. Et là, keshen omdim, mais lorsqu'ils se relèveront, omdin arumin obilvushen omdim, ils se relèveront nus ou habillés. Ce qui préoccupe beaucoup Cléopâtre, de savoir quelle robe préparer pour la résurrection des morts. D'accord ? Très surprenant cette question de Cléopâtre. D'accord ? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? Bon. Amarla, il lui a répondu, Rabbi Meir donc a répondu à Cléopâtre, Kalva Homer Mihita, c'est un raisonnement a fortiori par le blé. Uma Hitta Shenikbera Aruma, le blé qui est enterré nu, c'est-à-dire le grain de blé, on l'enterre dans le sol, il est tout nu. Yot'a Bechamma Levushin, ce grain sort avec beaucoup de vêtements. Il y a l'épi de blé est très habillé. Il a les enveloppes des grains, enfin, l'étoupe, tous ces machins-là. Et livret, pardon. Alors, Kamal Bouchin, Tzadikim, Shenik Barim, Bilvushem. Alors, les justes qui, eux, sont enterrés dans leurs vêtements. Alors, je ne vous dis pas, chez les Égyptiens, on est enterrés avec beaucoup de vêtements et des bandelettes. Alahat Kama Vechama, à plus forte raison que l'on est revêtu lors de la résurrection des morts. Bon. Ça a l'air complètement surréaliste, ce débat. Alors, il y a un rabbin qui a donné une interprétation fausse de ce texte. Oui ? F-O-2-S-E. Enfin, une mauvaise interprétation de ce texte. Donc, je ne vous dirai pas qui est le rabbin qui a écrit ça. Qui dit que c'est ici la preuve de la résurrection des morts. Parce que si le blé peut ressusciter, donc le mort aussi peut ressusciter. Alors pourquoi cette interprétation est fausse ? Parce que d'abord, ce n'est pas la question que posait Cléopâtre. Cléopâtre dit « Je sais que les morts ressuscitent », donc ce n'est pas ça sa question. Elle ne veut pas une preuve de la résurrection des morts. Et puis de plus, ce qui est absolument absurde dans ce raisonnement, c'est que le blé, il ressuscite parce qu'il y a un prolongement biologique. C'est-à-dire, la graine, quand elle pourrit dans le sol, elle n'est pas brûlée, elle disparaît pas. Il y a un processus biochimique qui fait que le grain repousse. Mais quand on parle de la résurrection des morts, on parle de la résurrection des morts, quelle qu'elle soit. Quelle que soit la manière dont on est mort, même si on a été complètement brûlé, annihilé, il peut y avoir résurrection des morts. Donc ce n'est pas de ça dont parle Rabbi Meir ni Cléopâtre. D'accord ? La raison pour laquelle cette interprétation a été donnée, c'est sous l'influence de ce qu'on appelle le pragmatisme de William James. Il y a cette idée qu'on trouve chez les philosophes d'origine anglo-saxonne, que tout est possible. C'est-à-dire que tout étant une combinaison d'atomes, donc tout est possible, donc il n'y a ni miracle ni nature. Mais ce n'est pas exactement ça la conception des rabbins. Les rabbins pensent que la nature existe et que pourtant le miracle est possible. Donc il y a une autre, ça veut dire autre chose. D'abord, ça veut dire quoi que... c'est quoi un vêtement ? Allons-y d'abord par là. C'est quoi un vêtement ? Vous avez peur de parler. Hein ? Ça nous différencie, c'est vrai. On est différent par nos vêtements. C'est une protection. En plus de ça, je vais vous dire, c'est un surplus. C'est-à-dire, on ne naît pas avec des vêtements et c'est un surplus qu'on ajoute à la nature. Nous sommes le seul animal au monde qui porte des vêtements. Tous les autres animaux n'en ont pas. À tel point même qu'il y a une définition de l'homme. Il y a un bouquin qui s'appelle « Les animaux dénaturés » de Vercors. Vous avez entendu parler de ça ? Enfin, bref, c'est un livre qui parle de ce problème de comment définir l'humain. Qu'est-ce que c'est qu'un homme, à la différence d'une bête ? Bon, c'est un livre romancé qui parle d'une peuplade semi-humaine qui aurait été découverte en Nouvelle-Guinée et dont on n'arrive pas à définir si ce sont des hommes ou des singes. Voilà. Alors, il y a tout un débat dans la presse, il y a le tribunal britannique qui s'en mêle, etc. Il faut une définition juridique de l'homme. Et alors, une des définitions centrales qui apparaissent dans ce livre, c'est le fait que l'homme ajoute quelque chose à la nature. Effectivement, il n'y a pas de société humaine dans laquelle il n'y a pas, sous une forme ou une autre, un vêtement. Parfois, le vêtement, c'est un fil autour du cou. C'est parfois un anneau dans le nez. C'est parfois de la peinture sur le corps. Mais il y a toujours quelque chose de supplémentaire à la nature. D'accord ? Alors, C'est, ça veut donc dire que l'homme est capable d'ajouter quelque chose à lui-même. Qu'est-ce que, par rapport au problème de la résurrection des morts, peuvent signifier un vêtement? Par exemple, les mitzvot, ou les bonnes actions qu'on a fait pendant sa vie. C'est-à-dire, l'existence est un surplus sur l'essence. Vous connaissez le problème chez les goyim. Est-ce que l'existence prime l'essence ou l'essence prime l'existence? D'accord? Alors, les existentialistes disent que l'on est ce que l'on se, qu'on est, ce que l'on est, ce que l'on, on se fait. Bref, on se fait quoi? Voilà. C'est-à-dire, c'est l'existence qui va définir l'essence de l'homme. Et si vous voulez, il y a un verset comme ça dans la Torah, et les toldot noir, noir. Voici les engendrements de noir, c'est noir. Que dit Rashi? Ikar toldotem shel tzadikim, l'essentiel des engendrements des justes, Torah ou ma'asim tovim, c'est la Torah et les bonnes actions. Mitzvot ou ma'asim tovim. C'est-à-dire, c'est l'homme qui se forme. On peut dire, à la limite, c'est l'habit qui fait le moine. C'est ça les mitzvot. C'est-à-dire, c'est le vêtement qu'on se rajoute. Alors, le problème maintenant est donc très grave. C'est quoi la résurrection des morts? La résurrection des morts, ça implique d'abord qu'il y a eu la mort. Alors, c'est quoi mourir? Est-ce que l'on meurt parce que notre vie a été un échec? Et on ressuscite pour remettre tout à zéro, pour recommencer. Ça, c'est donc une vision pessimiste de la résurrection des morts. On peut dire, voilà, tu as complètement échoué, ta vie était une catastrophe, c'est lamentable, c'est pour ça qu'on t'a fait mourir. Et maintenant, tu vas recommencer à zéro, c'est la résurrection des morts. Ou bien non, on dit, tu as très bien commencé, mais il y a des choses à réparer. Donc tu vas mourir momentanément pour qu'on puisse réparer, on va te mettre au garage, et après tu vas continuer à rouler. C'est très différent, c'est une vision donc optimiste de la mort. La mort, ça vaut la peine, parce qu'il y a des choses à réparer. D'accord? Donc, pour l'instant, tu meurs, mais tu vas continuer après. Eh bien, c'est ça le problème de Cléopâtre. Est-ce qu'on ressuscite avec les vêtements qu'on avait dans ce monde ou pas? C'est-à-dire, est-ce que la vie à venir est le prolongement, la suite logique de la première vie ou pas? En fait, ce problème, c'est le problème qu'on a vu tout à l'heure au tableau. Est-ce que le Olam Haba, c'est la suite du Olam Hazé ou pas? C'est ça la question. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit, les tzadikim sont enterrés dans leurs vêtements. C'est-à-dire que quand le tzadik meurt, c'est un homme plein de bonnes actions qui meurt. Ça serait dommage donc de ne pas continuer. C'est ça que ça veut dire. Et la preuve, c'est le blé. Parce que si même dans le monde biologique, on ressort avec des vêtements, à plus forte raison dans le monde moral. Oui. Oui, il suppose que les tzadikim, ce sont eux qui ressuscitent. Qu'est-ce que tu en sais qu'elle n'est pas tzadika? Peut-être que si. C'est-à-dire, si elle ressuscite, elle ressuscitera avec ses vêtements. C'est-à-dire qu'elle ressuscite avec les bonnes actions qu'elle a pu faire. D'accord? Oui, c'est tout à fait possible. Bon. Oui?
Ce que vous avez dit, ce moitié des kings qui ressuscite, vous faites une grande différenciation entre le peuple juif. Il y a la moitié qui va revivre, la moitié qui ne va pas revivre.
Pourquoi la moitié sont des tzadikim et l'autre moitié sont des réchaïs?
C'est le problème, c'est-à-dire il y en a qui va être proche de la limite, qui va ressusciter.
À moitié.
Qui va être loin de la limite, il peut se voir une petite différence. Un, il va pas connaître la résurrection des morts, le truc suprême, l'autre il va la connaître, c'est pas...
Oui, quelque chose d'assez bizarre.
C'est pas le peuple juif, donc quelque chose d'aussi...
assez énorme, c'est-à-dire, comment? Ça voudrait dire que tant de gens n'y auront pas part.
Enfin,
il faut le prouver, ça se
peut. C'est une limite franche, un peuple juif comme ça.
Pourquoi dans le peuple juif?
C'est tellement en éventail.
Oui, mais il n'y a pas ici de définition. Attention. Il n'y a pas ici de définition du tzaddik. C'est-à-dire, imaginons par exemple quelqu'un qui a en grande partie des mérites et en grande partie des démérites. Eh bien, ça veut dire que sa partie méritante participe de l'éternité, sa partie non méritante devra faire un tikkun. C'est-à-dire, tu te rappelles, on avait vu au début du texte, dans la page d'avant, Kol Israël Eshlem Halaklor Olam Haba, tout Israël a part au Olam Haba. Et on avait vu, selon l'interprétation du Hari, ça veut dire, tout Israël a en fin de compte part au Olam Haba. C'est-à-dire, ça prend du temps, il y a plusieurs Tikkunim, plusieurs Gilgulim, plusieurs Geinam, etc. Finalement, on y arrive. D'accord ? Donc ça veut dire que pour ne pas avoir part au Olam Haba et à la Triat HaMetim, il faut faire des efforts gigantesques. C'est pratiquement surhumain de ne pas avoir part à Triat HaMetim. J'ai raconté une petite histoire sur le Rav Elbaz. Vous connaissez le Rav Elbaz, hein? De Or HaChaim, oui. Comment? Non, pas en Pologne. Non, non, ça n'a rien à voir. Non, non, le Rav Elbaz. Rav Reuven Elbaz de la Yeshiva Or HaChaim, un jour, il passait dans la rue, il a entendu deux juifs qui discutaient entre eux de savoir s'il y a la résurrection des morts ou pas. Alors il y en a un qui disait, mais bien sûr qu'il y a la résurrection des morts, la Torah en parle, les rabbins en parlent, c'est évident qu'il y a la résurrection des morts. Et il disait, non, c'est des fables, n'y crois pas, c'est des bêtises, c'est une légende. Alors le Rav Elbaz passe, il dit, à celui qui nie la résurrection des morts, dit, ah, tu n'y crois pas, t'en fais pas, tu n'y seras pas. Alors le type très vexé, il dit, comment, tu me maudis? C'est... Alors, jusqu'à ce qu'on dise qu'un juif n'est pas tzadik, ça prend beaucoup de... Il y a beaucoup d'eau qui doit passer dans la Seine. D'accord? Donc c'est ça, donc, Alaha, Kama Vechama. Oui.
Comment ça se fait que, on a dit tout à l'heure,
oui,
que Rabbi Eliezer, Rabbi Yosef,
oui,
il répond
au Samaritain, oui,
au Samaritain, il leur répond à leur valeur, c'est-à-dire, oui, en fonction de ce qu'ils pensent.
Oui.
Donc, ils pensent, on a dit qu'ils pensaient que l'Olam Haba, c'était autre chose.
Oui, l'au-delà, oui.
Et là, Rabbi Meir lui répond à Cléopâtre d'une autre façon, en lui expliquant que l'Olam Haba, justement, c'est une longévité.
Oui.
Ça sous-entend que Cléopâtre, elle croit...
Elle est meilleure que les Samaritains, bien sûr. Parce qu'elle, elle sait qu'il y a Triat HaMetim. Elle le sait, elle l'a dit d'ailleurs. Donc elle est meilleure que...
Aussi, elle pense aussi que c'est la longévité.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a, il vaut mieux parfois être une bonne Goya qu'un mauvais Juif. En tout cas, quelque chose d'hybride à la manière des Samaritains, c'est compliqué. D'accord? Mais bon, Cléopâtre, c'est souvent les dirigeants politiques des nations comprennent des choses que le commun du peuple ne comprend pas. D'ailleurs, c'est pas n'importe qui cette Cléopâtre, celle qui a transmis la royauté du monde hellénistique au monde romain. C'est-à-dire, c'était la dernière souveraine hellénistique. Elle était elle-même d'ailleurs descendante par la porte de service, mais quand même descendante d'Alexandre le Grand. Ça veut dire qu'il y a toujours, quand un empire se transmet à un autre empire, il y a toujours une souveraine féminine qui transmet cela. Par exemple, lorsque les rois de Canaan ont été zigouillés par Yehoshua, il a pris comme épouse Rahav. Bon, Rahav avait un métier pas très noble, et elle avait été en contact avec tous les rois de Canaan. Dit la Guémara. Et donc, ça veut dire qu'à travers Rahav, Yehoshua héritait de la royauté des Cananéens. Et de même, dans le récit d'Esther que nous lisons, très bientôt, dans 2 mois, il y a également, c'est-à-dire qu'une descendante du roi Shaoul transmet la royauté d'Israël aux nations, à travers Ahasvéroch. Et puis après, il y a, dans la famille d'Ahasvéroch, le dernier roi de Perse avait une fille, Statira, qu'Alexandre le Grand a épousé. Et c'est comme ça que la royauté passe à chaque fois par un chaînon féminin qui transmet la royauté. Donc cette Cléopâtre en question, elle est dépositaire de quelque chose de très important. C'est elle qui fait partie de ceux qui assurent la continuité de l'histoire. D'accord? Donc Cléopâtre, c'est bien. Bon. Je continue ici la ligne d'en bas. Amarlo, Caesar, les Rabban Gamliel. L'empereur, le César, a demandé à Rabban Gamliel. Le César en question n'est pas le César de Cléopâtre. Parce que Rabban Gamliel vit plus tard. Mais nous avons souvent des entretiens entre les empereurs de Rome et les rabbins. Alors, un des empereurs demande à Rabban Gamliel, Amaritu de Shirve Haye. Vous dites que les morts vont revivre. Ha, havo afra, or ils deviennent de la poussière. Ve afra mikahaye, la poussière peut-elle vivre? C'est quoi cette question idiote? C'est une question idiote. Bien sûr que la poussière vit. Qu'est-ce que nous sommes, nous? Nous sommes de la poussière vivante, non? Nous sommes faits de pommes de terre. qui sont devenues vivantes en nous, non? Toute personne qui a mangé des fricassés, par exemple, le docteur Douyeb, savent très bien, oui, on met des pommes de terre dans la fricassée, non? Oui, on met de la pomme de terre. Aussi, bon, pas toujours. Bon. Eh bien, la pomme de terre, comme son nom l'indique, elle vient de la terre. Elle est mangée sous forme de frites, avec du ketchup, enfin, ou n'importe quoi. Et donc, elle devient une partie de nous-mêmes. Donc, nous sommes de la poussière vivante. Alors, que signifie cette question? Comment? Oui, Abraham aussi dit « Anochi afar vaefer, je suis poussière et cendre ». Et donc, comment se fait-il que le roi pose une question aussi idiote? L'empereur de Rome, il dit « Comment est-ce que la poussière peut revivre, peut vivre ?» Ben, bien sûr que la poussière peut vivre, nous sommes de la poussière vivante. Quoi? Mais il le voit que nous sommes de la poussière vivante. Il n'a pas besoin d'y croire, c'est quelque chose que l'on voit. En fait, il faut comprendre la question tout à fait différemment. La question c'est, si déjà le corps est devenu poussière, à quoi bon le faire vivre? J'explique. Vous savez qu'il y a une gradation dans le monde. Chez les Grecs, par exemple, chez les physiciens grecs, on enseignait qu'il y a quatre éléments dans le monde. Il y a la terre, l'eau, l'air et le feu. La terre, c'est ce qu'il y a de plus bas, de plus grossier. Et puis après, on monte en spiritualité. L'eau, c'est plus pur. Et puis après, au-dessus de l'eau, vous avez l'air. Et au-dessus de l'air, il y a le feu. D'accord? C'est comme ça, il y a une gradation. De même, il y a, dans le monde animal, il y a 4 degrés différents. Il y a le minéral, qui est très bas, qui est inerte. Au-dessus du minéral, il y a le végétal. Au-dessus du végétal, l'animal. Et au-dessus de l'animal, l'homme. Domem, tsomear, hai. Alors maintenant, qu'est-ce qui caractérise l'homme? Par exemple, le végétal par rapport au minéral, c'est qu'il se développe. L'animal par rapport au végétal, c'est qu'il se déplace. Et l'homme par rapport à l'animal, quelle est sa supériorité? Alors, d'après les Grecs, c'est qu'il est intelligent. C'est pour ça que le quatrième terme est traduit en hébreu, enfin, on traduisait en hébreu ce terme grec, « hai maskil », il est vivant et intelligent. Or, l'intelligence, c'est quelque chose de plus abstrait. C'est-à-dire, on commence par le plus bas, le minéral, et puis petit à petit, on monte vers le spirituel. Donc, la mort, pour les philosophes grecs, c'est une ascension, c'est encore plus grand. C'est-à-dire, quand on arrive enfin à se débarrasser de son écorce corporelle, eh bien, c'est une ascension géniale. C'est ce que disait d'ailleurs Socrate. Dans le Phédon, avant sa mort, quand ses élèves se lamentaient de ce qu'il allait mourir, il disait « Non, mais pas du tout, je me libère ». Et donc, ce que dit ici le roi de Rome, il ne dit pas, c'est pas une impossibilité physique, il dit « Si enfin on a réussi à se libérer de son enveloppe corporelle et que le corps est redevenu poussière, alors pourquoi emprisonner à nouveau l'âme dans une cage ?» Il faut surtout pas faire ça, il faut libérer le corps, enfin il faut libérer l'âme du corps. D'accord? C'est ça la question que pose l'empereur. Voyez-vous la question? C'est une question, si vous voulez, morale à la limite. Petite remarque, le quatrième niveau d'être chez les juifs n'était pas hai maskil, ce n'est pas vivant et intelligent. Dans la tradition rabbinique, on dit l'homme est appelé medaber, celui qui parle. C'est-à-dire, alors que, à nouveau d'ailleurs, on peut faire ici un petit dessin. Ah non, mais ils ont fermé. Oui, ah, c'est pas grave. C'est-à-dire, si on dessinait ça au tableau, entre le domaine et le sommaire, entre le minéral et le végétal, on mettrait une flèche ascendante. Après, entre le végétal et l'animal, encore une autre. Si, ascendante à nouveau. De l'animal à l'homme, c'est à nouveau ascendant, parce que l'homme s'oriente vers la spiritualité. Tandis que si on va selon la tradition rabbinique, qui dit que l'homme est le médaber, celui qui parle, parler, c'est quelque chose d'intermédiaire entre la parole et le matériel. C'est quoi la parole? Entre l'intelligence et le matériel, c'est quoi une parole? C'est de la pensée sous forme corporelle. Ce sont des muscles, la langue, les lèvres et tout le reste, qui exprime de manière corporelle une pensée. Pour le grec, c'est moins grand que l'intelligence. Parce que l'intelligence est abstraite, tandis que la parole est concrète. Tandis que pour les rabbins, c'est le contraire. C'est la parole qui est l'homme véritable, parce que la parole fait l'union du spirituel et du matériel. Et donc, c'est là que s'affronte le monde gréco-romain qui dit qu'il vaut mieux ne pas revivre, et le monde juif qui dit qu'il vaut mieux revivre. Ça, c'est la question que pose le roi. Alors, la réponse, elle se trouve dans la page d'après. Maintenant, j'ai un petit problème, je ne vous ai pas photocopié la page d'après. Mais je vais quand même continuer, parce que c'est 2-3 lignes et ça vaut la peine. D'accord ? Je peux continuer ou vous voulez qu'on... Non, parce que sinon on peut continuer dans le prochain cours, mais ça vaut quand même la peine. « Amrale brate shavke vana madrale » La fille de l'empereur a répondu à Rabban Gamliel, « Laisse-le, c'est moi qui vais lui répondre. » Effectivement, nous avons des témoignages, aussi bien ici qu'un peu partout, qu'il y avait dans la cour des empereurs romains des judaïsants, et souvent d'ailleurs chez les femmes. Il y avait chez les nobles, dans les familles patriciennes de Rome, il y avait une attirance pour le judaïsme. Plus chez les femmes que chez les hommes, pour une raison très simple, c'est que les hommes avaient peur de la circoncision, ce qui ne posait pas de problème pour les femmes, ce qui fait qu'il y avait plus d'attirance. Par exemple, la femme de Néron, Poppée, l'impératrice Poppée, était judaïsant, peut-être même converti au judaïsme. D'accord ? Et donc la fille de l'empereur répond à Rabban Gamliel et lui dit d'ailleurs, je vois très bien la réponse que tu, l'allusion que tu veux faire. Je veux dire une petite chose, c'est que d'après certains philologues, le mot poupée aurait son origine dans justement cette fameuse Poppée qui était impératrice de Rome. Donc ce que tu as dit à l'oreille ah non, ça n'a rien à voir. Ah d'accord. Bon, je suis trompé. Non, que faire. Bon, donc Amrale Braté, Shavka Nadale, elle lui a répondu, je vais moi donner la réponse. Quelle est la réponse? Shne Yotzrim Yesh Be'irenu. Il y a deux potiers dans notre ville. Echad Yotzer Minamaim. L'un fait des ustensiles avec de l'eau. Ve'had yotzer minatit. Et l'autre fait des ustensiles avec de la glaise. C'est de la terre mélangée avec de l'eau. Eizemehen meshubar, lequel est le meilleur? Amarla, il lui a répondu, le père à sa fille, Zeshi yotzer minamaim, celui qui peut faire des cruches d'eau est plus grand que celui qui fait des cruches de terre cuite. D'accord ? C'est plus difficile de faire un ustensile avec de l'eau qu'avec de la terre. N'est-ce pas ? Vous avez déjà essayé de faire de la poterie avec de l'eau seulement ? Ça ne marche pas. Amralo, elle lui a répondu, « Minamaim tsar minatit lo kol sheken » Dieu a formé l'homme à partir d'un liquide, c'est-à-dire le flux séminal, et l'homme en est né. Alors, « Minatit lo kol sheken » Est-ce qu'il ne peut pas le faire ressusciter à partir de la boue? À nouveau, que signifie cette... C'est fini là-bas, on va aller... Ils veulent que le cours s'arrête. Ça marchera pas. Ah. Ouais, tu leur as fait peur. Ouais. À Obélix. Ouais. Et alors, donc, Dieu a créé l'homme à partir d'un liquide, à plus forte raison, il peut le former à partir d'une glaise. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le fait que l'homme, quand il est né pour la première fois, il est formé à partir d'un liquide qui devient un corps. Ça veut donc dire que l'intention du Créateur est de passer du plus haut vers le plus bas. Parce que si l'eau, c'est plus que la terre, et que c'est à partir de l'eau qu'un homme de terre est fait. Ça veut donc dire que l'intention du Créateur est non pas que l'on s'élève vers le spirituel, mais qu'il veut introduire le spirituel dans la matière. Et donc ça justifie la résurrection des morts. Vous comprenez ? C'est ça qu'elle veut dire la fille du roi. D'accord ? Maintenant, la fille du roi amène une deuxième preuve par la suite, mais cette deuxième preuve est plus compliquée, et ça, elle mérite une étude en soi la prochaine fois. Alors, je rappelle que ce n'est pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est Hanouka. Et comme je l'ai dit, à Hanouka, il y a un décret d'Antiochus qui interdit d'étudier la Torah. Mais c'est dans deux semaines, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Je tiens à vous rappeler qu'il y a demain une conférence du professeur Beno Gross et une conférence du Rav Cherki, demain soir au Machon Meir, entre 20h15 et 22h. Venez tous en multitude. Shalom.